je passe là-dessus. Alors ça, c'est un élément, et je pense que je vais passer un peu de temps là-dessus, mais qui n'était pas du tout évident quand on a commencé ce projet, et finalement qui nous a aussi sauté aux yeux, y compris en échangeant avec des chercheurs plus spécifiquement sur ces questions de gouvernance, c'était finalement se rendre compte que nous, IDRI, on adore la gouvernance, quoi. On parle de gouvernance internationale, européenne, nationale, à tous les niveaux, on aime bien ça. Pour la FING, un acteur de l'innovation numérique, gouvernance, c'est un gros mot, un mot, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, etc. On l'utilise avec beaucoup de limites. D'ailleurs, une start-up ne parle jamais de gouvernance. Une start-up parle toujours de la solution qu'elle va apporter à un problème en particulier. Et puis vice-versa, nous, l'innovation, ça restait un peu nébuleux. L'innovation, c'est quoi ? C'est le progrès technique. Moi, je suis ingénieur à la base. Bon, ok. L'innovation, c'est le progrès technique. Et de la même manière, quand on parle des collectivités locales, elles parlent directement tout le temps de la mise en œuvre collective de solutions, de gouvernance, de la façon dont on le met en œuvre. Et on se rendait compte que finalement, il y avait un schisme assez fort en fait, entre ces deux notions, et que c'était vraiment en travaillant ensemble qu'on se rendait compte qu'il fallait que nous, acteurs qui travaillons à la mise en œuvre collective de solutions pour le développement durable, on n'ait pas peur de mettre les pieds dans le plat sur l'innovation, et que grâce à des acteurs spécialisés de l'innovation, on se sentait un peu plus légitime pour le faire, par exemple de dire arrêtons de faire en sorte que juste les gens innovent dans tous les sens en se disant ça va être forcément génial, et de dire bah, en fait on a un problème très très important qui est la pollution de l'air ou la gestion des déchets, et que c'est là-dessus qu'on veut que vous innoviez. Vous voyez, juste cette idée que, personnellement en tout cas, j'avais un peu cette impression que l'innovation c'était un processus un peu mystique sur lequel il ne fallait pas trop interagir parce qu'au cours d'un hackathon, il peut se passer des choses extraordinaires et il ne faudrait surtout pas le cadrer dans une direction ou une autre. Et de l'autre côté, bah, que des acteurs de l'innovation, et ça a été aussi leur prise de conscience, de dire, bah, oui, en fait, il y a des politiques publiques, il y a des enjeux collectifs et systémiques, par exemple dans la mobilité urbaine, on peut mettre toutes les applications qu'on veut, à un moment donné, c'est comment on partage la voirie, comment on finance collectivement des solutions de mobilité. Et ça, ce n'est pas en additionnant les applications qu'on va le résoudre. Et donc, on est aussi légitime pour parler de mise en œuvre collective et de gouvernance. Donc, on s'est vraiment rendu compte de ça, et notamment, c'est y compris en relisant le papier de Le Gallès sur du gouvernement à la gouvernance urbaine, où on se rendait compte que, dans son diagnostic de pourquoi on doit parler de gouvernance urbaine, finalement, c'est le début des années 90, l'innovation numérique n'a pas sa place encore. Et quand on relit cette analyse de pourquoi on a besoin de gouvernance urbaine à l'aune de tout ce qu'on voit avec l'innovation numérique, on se rend compte à quel point ça exacerbe ce besoin. Que vraiment, c'est l'incertitude inhérente au processus d'innovation dans nos sociétés modernes crée en fait un besoin, une déstabilise cette notion même de gouverner, donc s'orienter collectivement en réduisant une incertitude progressivement. Donc voilà, en fait, c'est tout simple, juste ce qu'on voulait dire, mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait peu d'acteurs qui en parlaient parce que c'est des communautés différentes, parce que parler de gouvernance, c'est quand même très très chiant. Et un peu le déclic qu'on a eu au moment où on finalisait la recherche, c'est une journaliste du Monde qui nous a contactés en nous disant « Vous parlez de gouvernance et d'innovation, ça m'intrigue, est-ce qu'on ne peut pas en parler ensemble ?» En général, quand on parle de gouvernance, ça intrigue pas les journalistes, quoi. Et elle a du coup publié une interview qui nous a beaucoup aidé pour valoriser le rapport. Et le titre qu'elle avait trouvé, c'était « Le concept de Smart City n'est plus opérant ». Et ça nous avait... En fait, finalement, c'est le genre de moment où ça nous aide d'avoir un regard extérieur de quelqu'un, les journalistes qui ont un rôle important dans ce domaine-là, parce que la Smart City, c'est aussi fait sur un buzz médiatique de raconter les meilleures expériences, quelle est la Smart City de l'année, la meilleure Smart City, etc. etc. Et c'est très important qu'eux aient un regard critique sur ces sujets. Et en tout cas, là, nous, ça nous avait aidé à dire faut continuer à tenir ces deux bouts ensemble. On a besoin d'innovation, donc on a besoin de liberté, il y a besoin de flexibilité, d'agilité, etc. etc. Mais on a aussi besoin de politiques publiques, de règles communes, de vision de l'avenir. Et il faut conserver cette tension. Et on est peut-être allé un peu trop loin à être dans le mid-startup. En même temps, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est le blog qui est à la fois hébergé sur Le Monde et sur la FING, donc c'est le blog de la FING, du Berguillot, qui s'appelle Internet Actu. Ils avaient fait ce papier un peu au vitriol, en disant il y en a un peu marre de la start-up nation, la start-up n'est pas la solution à tout, arrêtons la hackathonite aiguë dans tous les territoires, etc. Et c'était très, ça montrait que, et ça, c'est, ça parle à la communauté historique de l'innovation et du numérique, ça montrait qu'il y avait quand même une réflexion dans cette communauté-là en disant, bon, est-ce que notre modèle qui était innovant, qui est la start-up, c'est pas devenu justement un modèle super uniforme d'innovation? Et c'est un moment où on pouvait observer que dans toutes les grandes métropoles européennes, en tout cas françaises, dans chacune, il y avait les mêmes start-up qui produisaient les mêmes solutions, en fait, et qui partaient des data et qui imaginaient à peu près les mêmes choses, et y compris des élus qui disaient, attention, c'est pas avec ça qu'on va faire un modèle économique de demain, parce que de toute façon, ces start-up, il en restera qu'une, et au mieux. Donc il y avait un peu ce... C'est foisonnant, mais c'est aussi uniforme. Il faut peut-être passer à d'autres visions de l'innovation. Ça, bien sûr, nous, en tant qu'acteurs de développement durable, qui s'intéressons à la ville durable, on n'est pas du tout légitime pour raconter quelque chose comme ça. Mais la FING, elle l'était. Alors, l'idée aussi, c'était de rendre un peu plus concret ces questions de gouvernance. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais là, simplement de dire, c'est, on reste dans un contexte d'incertitude avec plusieurs acteurs qui sont capables d'innover. Donc il ne s'agit pas de dire, on revient à une forme de dirigisme, c'est à la ville de dire comment on innove, quel est le cahier des charges à suivre. Et il y a des schémas de gouvernance qui permettent une certaine flexibilité qu'on a observé dans le passé. C'est dommage, Anne n'est plus là, mais une agence locale de l'énergie, c'est typiquement une façon de gouverner alors sans contrainte, pour reprendre le livre de François-Mathieu Poupeau du LATS, c'est-à-dire de gouverner par le réseau, de donner des principes généraux, de mettre en mouvement, d'animer, d'être un médiateur, etc. Donc il y a des façons pour les villes d'être en capacité de gouverner, de donner une orientation à un écosystème d'innovation sans que ça soit quelque chose de complètement rigide. On le voit quand c'est Paris qui le fait avec le budget participatif et des citoyens, quand Lyon le faisait avec Optimode et l'échange de données à travers des chartes, etc. Donc bref, en tout cas, il y a un entre-deux à trouver, il y a des outils qui existent, il y a des ressources auprès de la recherche pour les mettre en œuvre. Souvent, on se rendait compte que c'était compliqué de pour des gens qui ne sont pas des spécialistes, mais qui sont aussi des décideurs. L'innovation numérique est très forte pour faire des promesses, pour nous bercer d'illusions sur ce qui va être capable de résoudre dans le monde réel, et la mobilité est un très bon exemple. On s'est rendu compte dans le projet qu'il fallait vraiment dépenser beaucoup d'énergie pour faire comprendre à des gens qui sont très portés sur cette innovation que non, le covoiturage local, que mettre plusieurs personnes dans une voiture, que faire changer des modes de transport, c'est pas du tout facile, qu'il faut des choix collectifs, il faut des choix lourds, il faut des changements d'infrastructures, etc. Et qu'on est obligé d'arriver à une forme de collaboration, et donc on s'écarte de ces modèles de type Uber, initial, qui étaient, mais nous on va transformer la mobilité dans notre coin, juste, voilà, comme ce qui a existé dans le monde d'Internet, qui est, on aura un succès phénoménal, et on va réussir à tout changer nous-mêmes. Uber est assez illustratif de ce changement. Quand on a commencé ce projet, on était encore dans cette logique de disruption très indépendante, pas de négociation, pas de dialogue, etc. Et puis au fur et à mesure du projet, il y a eu les péripéties d'Uber en même temps, avec l'annulation de leur licence à Londres, puis leur CEO qui est parti, puis le nouveau, etc. Et on les a vus progressivement dire, mais finalement, nous, on doit être un acteur de la transition mobilité des villes, donc on doit être aligné avec les intérêts de long terme des villes. C'est dans notre propre intérêt de business model. Et c'était intéressant de voir que finalement, ce mythe de la disruption, c'est-à-dire d'une activité purement libérale, purement économique dans un système ville, ça ne fonctionne pas sur le long terme. Dit autrement, la ville, c'est de l'économie mixte, quoi. C'est une économie dans laquelle il y a beaucoup d'interventions publiques, ce qui n'est pas le cas quand on est à une échelle purement virtuelle. Et donc ces acteurs-là, de fait, se rendent bien compte qu'il va falloir mettre en œuvre des collaborations avec les acteurs locaux. ECOV, c'est une start-up française de covoiturage collectif qui était assez amusante parce que quand ils sont arrivés, ils ont dit « Nous, on prétend pas du tout qu'on va être le nouveau Blablacar, avoir un modèle purement privé, on va se développer avec un succès foudroyant. Nous, on va être un acteur du service public de la mobilité. Ça ne marchera qu'à cette condition, Sauf qu'il s'avère que nous, c'est du covoiturage local, c'est pas du bus ou autre chose. Donc il y avait une... directement là, on voit un acteur d'innovation qui avait une démarche différente en disant bah oui, nous, de toute façon, ça marchera que si on s'incarne dans la gouvernance et dans l'organisation très concrète de la mobilité d'un territoire. On ne prétend pas résoudre ça de notre côté. J'arrive à la fin. Un autre point qui nous paraissait important, et ça en direction des décideurs locaux, mais la façon dont est présentée l'innovation en général, c'est de présenter que finalement l'innovation c'est consensuel. Tout le monde est pour, ça fait que des gagnants, donc pas besoin d'en discuter. Or, quand on regarde dans le détail, bah, bien sûr que non, ça fait des gagnants et des perdants. On a le droit d'être contre les innovations, on a le droit d'être contre la voiture autonome, par exemple, et heureusement, il y a plein de Français qui sont contre le véhicule autonome. En tout cas, ça dit juste que c'est un enjeu politique. Bah, il doit avoir des positionnements politiques sur l'innovation. On ne peut pas simplement avoir au futur municipal des candidats qui disent « Moi, je veux te faire de notre ville... » Voilà, la ville la plus smart, la plus innovante, ça ne doit plus être suffisant. Ou alors de dire, mais finalement, on va donner les conditions pour qu'il y ait un écosystème qui s'exprime dans tous les sens et ça va être forcément bien, quoi. Ça va forcément être utile pour la ville. Non, peut-être qu'il faudra prendre des décisions du genre, ben, nous, nos grands objectifs, c'est ça. La façon dont on va organiser cette innovation, c'est de cette manière, parce que c'est un champ de politique publique comme un autre. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que Cette vision-là, elle est assez partagée par un acteur comme la Caisse des dépôts et consignations, qui, à travers son gros programme TIGA, Territoire d'innovation grande ambition, très concrètement, c'est ça qu'elle demande aux villes en disant bah, « Dites-nous quel est votre grand objectif, ne nous dites pas que vous voulez être une smart city, mais dites-nous que vous voulez améliorer le système de santé de votre territoire grâce au numérique, avec des objectifs concrets et donc d'orienter l'innovation dans cette direction-là. » Donc en tout cas, voilà, c'était l'objectif de se dire, bah, en fait, il y a une dimension, une épaisseur politique à l'innovation numérique qui est soit sous-estimée, soit traitée de manière un peu mollassonne en disant on veut être smart, etc. Et d'ailleurs, il y a tout un tas d'élus qui sont bien, nous, un élu parisien qui nous disait, bah, il y a une sorte de double langage, c'est-à-dire que lui, il nous disait... à l'extérieur, à l'international, quand il fait des interventions, il parle de Smart City parce que c'est le concept qui permet de se comprendre plus ou moins, mais que dans son travail quotidien, ni le concept ni le mot, il ne l'utilise en fait. C'est bien autre chose que ce qu'ils veulent mettre en œuvre, mais qu'il y a une forme de double langage nécessaire qu'on a tous un petit peu, mais qui couvre aussi cette réalité. Et puis ouais, juste cet exemple là je pense que un des objectifs du travail c'était aussi de remettre à sa place la puissance publique, c'est à dire de rééquilibrer trop souvent dans ce discours ce sont les acteurs privés qui sont innovants, c'est les acteurs privés qui peuvent inventer les nouvelles solutions, puis l'acteur public il est un peu lent et on aimerait bien qu'il arrive à les mettre en œuvre. Il y a aussi beaucoup d'innovations chez les acteurs publics locaux et nationaux. Et je trouve ça marrant, cette citation d'une personne qui était dans une start-up, avec beaucoup de succès d'ailleurs privé, qui disait bah, « Finalement, moi qui veux avoir de l'impact grâce à cette innovation numérique, en travaillant au sein de l'État, c'est peut-être la meilleure façon d'avoir de l'impact avec ce que je sais faire en informatique et en développement. » Et je trouve que ça montre aussi qu'il faut et qu'on est en train de rééquilibrer cette vision de qui peut être innovant, qui peut apporter des solutions avec le numérique. Merci.